Nous allons reprendre, si vous voulez bien. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Mariela Di Maio, qui est donc une grande spécialiste de Stendhal et qui est professeure de littérature française à l'université de Rome III. Rome III. Nous l'avons eu comme professeur invité à la Sorbonne, du temps que j'étais à la Sorbonne. Elle a été aussi professeur invité à l'université Paris III. Elle est donc très, très bien connue des spécialistes français de Stendhal. Et c'est elle qui a fait préparer les éditions récentes de Stendhal chez Mondadori, en Italie, qui est un peu l'équivalent de la Pléiade pour les auteurs classiques. Je vous recommande son édition de La Chartreuse de Parme en folio, l'édition la plus récente de La Chartreuse de Parme, qui est excellente. Et elle est en train de préparer, puis-je le dire ? Oui. Elle est en train de préparer une édition de une anthologie de la correspondance de Stendhal pour la collection Folio également. Dans la collection Folio, il y a une série de volumes d'anthologies de correspondance, je ne sais plus très bien lesquels il y a, je sais qu'il y a Flaubert, je sais, quelques-unes, et il y aura donc une belle anthologie de ces nombreux volumes, de ces deux volumes de la Pléiade que nous regrettons tant, de la correspondance de Stendhal. Alors aujourd'hui, elle nous a donné comme titre Stendhal, journal et lettres de Russie, pour voir précisément deux versions différentes de cette écriture de la vie, de cette écriture de l'histoire. À toi.
Merci Antoine. Merci pour les mots que tu as dit sur moi, merci pour ton invitation. Et je dois dire que je suis vraiment ravie de faire témoigner Stendhal dans le cadre du séminaire que tu diriges. J'ai choisi de parler de l'année 1812, lorsqu'un rebelle, attaché à la Grande Armée, participa à la campagne de Russie. Il n'a jamais raconté cet événement dans ses œuvres de fiction, alors qu'il n'est pas point besoin de rappeler les pages sur Waterloo dans les premiers chapitres de La Chartreuse de Parme. Stendhal n'a pas assisté à la dernière débâcle de Napoléon, il n'était pas à Waterloo. En revanche, il a vu et vécu le commencement de la fin de l'Empire en Russie, fin du monde, et a confié son témoignage uniquement aux notes de son journal et à quelques lettres intimes. Et c'est sur ce témoignage fragmentaire et souvent réticent que je m'arrêterai aujourd'hui pour me demander pourquoi Stendhal nous donne un récit si peu détaillé de ce moment crucial de sa vie, comme si quelque chose l'empêchait d'aborder de front cette tragédie collective qui marque un tournant décisif dans son existence et dans l'histoire. Car, comme l'on sait, ce n'est qu'après la chute de Napoléon qu'il devient écrivain. Qui le croirait ? Quant à moi, personnellement, la chute me fit plaisir, écrira-t-il dans la vie de Harry Brulard. Je commence par des prémonitions. Ça va sans dire, en 1811, Stendhal n'a aucune idée de l'expédition en Russie. Dès les premiers mois de cette année, il caresse le rêve d'un nouveau voyage en Italie, un voyage qui, après quelques déceptions, n'aura lieu qu'à la fin de l'été. Du mois de mars au mois d'août, les pages du journal révèlent une attente de plus en plus grande. Je suis amoureux de mon voyage. nourri d'une sorte de préparation ou d'éducation culturelle, lecture de livres de voyageurs surtout, et traversé d'éclairs prophétiques quant à la vraie finalité de ce voyage. Et je cite, « Nous allons en Italie pour étudier le caractère italien, connaître les hommes de cette nation en particulier et par occasion compléter, étendre, vérifier ce que nous croyons savoir de l'homme en général. » Fin de citation. Le désir de retourner en Italie naît essentiellement d'un besoin de vérification, de complétement et de la conscience de ne pas être à la hauteur. Sentiment qu'Aribel perçoit comme une limite, comme une blessure. Nous sentons bien combien nous avons à apprendre pour pouvoir soutenir un jour, dans les Champs-Élysées, la conversation avec Shakespeare, quel Dio ignoto, c'est Dieu inconnu, Molière et les autres. À cette époque, ce sentiment d'insatisfaction correspond à une période de réussite professionnelle et sociale. Pour l'auditeur au Conseil d'État, devenu ensuite inspecteur général, les années 1810-1811 sont des années euphoriques, imprégnées toutefois de doutes et d'incertitudes, car elles marquent aussi un point de chute, en faisant affleurer des signes sombres et inquiétants, la triste routine bureaucratique, le triomphe du cynisme et de l'esprit courtisan. Le malaise, dont la nature n'est pourtant pas simplement sociale, se manifeste dans la remise en cause d'une période assez heureuse de sa vie et envahit un territoire plus caché, plus profond de sa sensibilité, apparemment en sommeil, narcotisé. Perte d'imagination et perte de la musique. Même si Belle s'efforce de l'étudier dans un pénible exercice, tous les efforts de réanimation visant à donner vie à un autre soi-même vont dans le sens des préparatifs du voyage tant attendu, comme la lecture du sublime de Burke, ou encore comme les rêves de ce qu'il pourrait éprouver en Italie devant certains monuments, certains chefs-d'œuvre de l'art. Parce qu'à cette époque, la littérature chez Stendhal est perdante. L'Étellier, la pièce qu'il n'acheva jamais, on sait qu'il rêvait de devenir auteur de théâtre, n'avance pas. Il y travaille plus ou moins à partir de 1806 et il revient en vain, mais régulièrement au fil des ans. Et il en est de même de ce projet d'essai sur le comique et le rire. Au fur et à mesure que le temps passe, le calme excessif se transforme en ennui. Sentiment de disproportion, de déséquilibre entre apparence et réalité, désir frustré d'écriture. J'ai besoin d'un grand voyage ou de l'Étellier. J'ai besoin de l'Étellier. Et voilà qu'apparaissent dans les notes de mars du journal les termes de bayliste, baylisme, termes qui répondent à la misanthropie de Molière ou d'Alfieri, mais qui sont aussi, de façon confuse, les signaux d'une posture différente du moi. Dans l'attente du voyage, l'autorisation doit venir de son puissant cousin Pierre Daru, domine l'aspect del viaggio a Roma, l'espoir du voyage à Rome, qui remplace presque la reprise de l'activité créatrice. Toutes les deux seraient des occupations fortes visant à combattre la paralysie intérieure. Mais d'une manière encore confuse et mystérieuse, des allusions et des soupçons vont augmenter ses doutes et ses incertitudes. Des bruits et des rumeurs d'une guerre contre la Russie, le 27 mars 1811, suscitent en Stendhal un sentiment d'exaltation, l'espoir de l'action. Il parle beaucoup d'une guerre contre la Russie, écrit-il dans son journal. Il serait charmant, en revenant d'Italie, d'aller à une armée bien active. Il serait avantageux, ajoute-t-il, d'être forcé de voir, de fréquenter les hommes, ce qui serait un bon remède pour sa misanthropie. Mais, tout compte fait, de notes ajoutées en 1813 et en 1815 nous montrent que l'enthousiasme initial avait vite disparu. Charmant n'est pas le mot exact, écrit-il à propos de cette entreprise militaire. Et il parlera d'ennui, de privation de tout bonheur par les arts à cause de l'activité sociale excessive, fut-elle même la guerre. D'ailleurs, la nouvelle de l'expédition en Russie compromet son projet de voyage en Italie, l'événement heureux qui aurait dû marquer un tournant dans sa vie. Rien de nouveau que de maudits bruits de guerre avec la Russie qui me font trembler pour notre voyage. Les bruits de guerre avec Alessandre, avec Alexandre le Tsar, qui se répandent de plus en plus, sont contraires à mon voyage. Désormais, son travail ne lui suffit plus. Entre le moi et le non-moi, la distance augmente, ainsi que le refus du régime des apparences, des jouissances de vanité, ce sont des mots de Stendhal, qui n'auront duré que trop longtemps. Seul le voyage peut représenter une source de bonheur, l'activité qui permettra au sujet créateur de passer de la potentialité à l'acte. Et voilà que de façon tout à fait inattendue, une autre position émerge. La Russie et la Sicile. Les raisons de la vie collective et de la politique, rumeurs de guerre lointaine, obligation, imposition de la troupe, contre la tentation d'une sécession sociale, du voyage comme solitude parfaite dans une dimension primitive et atemporelle, au fond de quelques cavernes. Et je cite, « La Sicile, si jamais je puis y aller, présente deux avantages. La nature humaine y est aussi forte et aussi curieuse à étudier que celle des plantes et des rochers. J'aurai, en habitant à moi, quelques cavernes sauvages de l'Etna, des sensations rares. » Fin de citation. Des sensations qui lui manquent à Paris, dans une dimension purement sociale et dominée par la vanité et l'ambition. Il ne faut pas désirer les choses incompatibles, écrit Stendhal. La conscience d'être tout autre qu'un vrai Parisien le fait penser à Shakespeare près des cavernes de l'Etna et des roches immenses de la Norvège. Il se retrouve dans un passage de Roméo et Juliette qui devient pour lui une véritable déclaration de poétique. Tu ne peux parler de ce que tu ne sens pas. Stendhal, on le sait, n'ira jamais en Sicile. Et je renvoie à Stendhal et la Sicile de Leonardo Sciascia, mais il fera tout de même le voyage tant attendu avant d'aller à Moscou. Il part pour Milan le 29 août. Le 25, il avait commencé son journal de voyage en parlant d'une journée passée à Versailles, juste avant son départ, où il avait assisté au Jeu des Eaux. Ce spectacle lui donne la sensation du grand, ne serait-ce que par la présence de leur majesté, empereur et impératrice. Il y a quelques instants heureux, écrit-il alors, au moment où l'espoir d'un bonheur personnel à l'Italie ne fait qu'un avec l'exaltation politique, augmentant l'un et l'autre. Mais il s'agit justement d'un court moment. Tout au fond de lui-même, il y a le dégoût et le sentiment de l'échec. Et surtout, le voyage en Russie n'a pas encore eu lieu, n'est pas encore arrivé le temps de la froideur. On a écrit à juste titre que du mois d'août au mois de novembre 1811, la courbe de la vie de Bell ne peut que monter verticalement. Il va à Milan, il y retrouve Angela Pietragrua, il retrouve surtout le désir de l'écriture. Comme chacun sait, il reviendra d'Italie critique d'art et historien de la peinture, même si cela se produit à partir des livres de Lanzi et d'autres, grâce à des reprises, des traductions et souvent à des plagiats. Mais ce changement est dû aussi à un travail intérieur. Les émotions esthétiques que lui procurent des facteurs extérieurs, les œuvres d'art de Bologne et de Florence, par exemple, sont filtrées par une subjectivité qui est sur le point de devenir créatrice. Il y a prise de conscience à partir du souvenir du premier voyage en Italie, 10 ans auparavant, une période de soupirs, de larmes, d'élan d'amour et de mélancolie. Mais de mélancolie productrice, puisqu'elle a formé, et je cite, « ce culot de sensibilité qui peut servir mi per arte, qui peut me servir pour mon art ». Cette source inépuisable de sensibilité qui lui fait sentir tout et qu'il compare à une liqueur qu'on injecte jusque dans les plus petites veines d'un corps. Une liqueur qui abonde partout. La comparaison entre l'Italie de ses 18 ans, lors de la campagne triomphale de l'armée de Bonaparte, et celle de ses 28, est à l'origine d'une notion de mélancolie qu'il considère comme dispositif de création artistique, ne serait-ce qu'en puissance, comme créativité latente. Mais il faudra passer par un autre type de mélancolie, nécessaire et douloureuse, pour mettre l'écriture en œuvre. Il faudra que la courbe de la vie et de l'expérience soit descendante, précipite dans la catastrophe comme l'Empire, comme le mythe tout à fait subjectif de Napoléon. « Je tombais avec Napoléon en avril 1814 », écrira l'égotiste, au chapitre 2 du Brûlard. Pour l'instant, Henri Bell a-t-il au moins décidé d'écrire une histoire de la musique et une histoire de la peinture. De retour à Paris, il commence, le 4 décembre 1611, la première rédaction de l'histoire de la peinture en Italie. Sur ce grand cahier vert pomme qu'il emportera lors de la campagne de Russie et qu'il perdra pendant la retraite, à l'exception d'un seul, dans ce pays lointain, où, d'une manière très symbolique, il ne parviendra pas à perdre l'éternel letellier. Ainsi, ses débuts tourmentés d'historien de l'art italien sont paradoxalement liés à la Russie, comme l'atteste, entre autres choses, la première dédicace de l'histoire de la peinture, énigmatique étant débattue au tsar Alexandre, le vainqueur de Napoléon, mais aussi le plus grand des souverains existants, l'homme juste. Fin de citation. Et toutefois, le conflit réel, le conflit entre politique et littérature, n'est pas facile à résoudre. On le voit clairement dans une note du 22 janvier 1812. Le rêve de l'aventure à Russie, incertain mais toujours présent, est profondément atteint quand Stendhal voit son cousin Pierre Daru parlant avec humeur et arrogance ton tranchant. Pressentiment, signaux. Cet épisode, somme toute banal, lui ôte l'idéal de ce voyage et lui révèle prophétiquement ce qu'il ne connaît que trop bien, la grossièreté de l'appareil, la brutalité de la vie militaire et sa propre intolérance à la hiérarchie. Des traces de ce conflit sont à voir aussitôt après son départ pour la Russie, le 23 juillet, dans son journal, envoyé par précaution comme lettre, dans ses lettres connues et dans celles qui furent retrouvées par miracle beaucoup plus tard. C'est par ces témoignages que la campagne de Russie, expérience héroïque et affreuse de tous les points de vue, devient pour Stendhal une étape intérieure, une étape formatrice. Certes, par rapport à sa vie de fonctionnaire à Paris, où il a senti d'une façon définitive le vide de l'ambition, c'est un événement libératoire, un dépaysement nécessaire. Mais dans le domaine de l'évasion, cet événement représente l'incertitude, ou plutôt l'inconnu par rapport au connu, l'Italie, ainsi qu'il écrit à sa sœur Pauline. Car il lui est difficile d'échapper à la bipolarisation qui, au fur et à mesure, domine sa vie. Son contentement, je cite, est situé dans le beau pays che il mare circonda e che l'Alpe e l'Appennine parte, che les Appennins divisent e qu'entourent la mer e les Alpes. De l'autre côté, il y a Grenoble et Paris, tout ce qui empêche l'épanouissement de son désir. Et c'est justement la fiction qui permet le dépassement de cette opposition radicale devenue canonique. Autrement dit, le triangle qui va se produire et qui aura bien entendu un caractère transitoire sera éminemment littéraire, dans le sens le plus complexe, évidemment. Car c'est une idée, ou mieux, une sensation de la Russie qui émerge des pages de Stendhal, plutôt que la description d'un pays ou le récit objectif d'une entreprise militaire. Il va sans dire, il ne faut pas trop faire confiance à la vérité de ces pages et il ne faut jamais abandonner le plan d'élaboration de l'écriture. En effet, c'est aussi grâce à Stendhal que l'aventure napoléonienne et surtout la retraite de Russie, événement romantique par excellence, devient littérairement fondatrice. Voir, par exemple, dans le journal, le récit de l'incendie de Smolensk, raconté aussi dans la lettre à Félix Faure et à Madame Daru du 19 août, un récit inoubliable pour le contraste entre le drame qui a lieu, mais qui est décrit comme un si beau spectacle, un spectacle si rare, et l'envie de dîner qui hante les officiers, y compris le narrateur. Un dîner qui se termine avec tous les convives s'endormant sur leurs chaises, la fourchette à la main. Et voir encore, sur un registre moins plaisant, dans les pages que Stendhal appelle « Journal de ma compagne de Russie » en 1812, les impressions affreuses. Ces impressions affreuses sont mal-être complet face aux énormes difficultés de l'expédition et surtout à la misère de l'armée, au milieu grossier, sale et rebutant où il est obligé de vivre. Le 28 août à 60 lieues de Moscou. Mais la dégénérescence physique et morale du contexte est toujours saisie par une conscience aiguë, omnivore, égoïste de ses propres sensations matérielles. Je cite, « Je suis au pied d'un bouleau mort, dans un petit bois plein de poussière, vexé depuis 9 heures que nous sommes arrivés par la poussière, le manque d'eau, d'olives, la saleté du sol, composé d'anciennes feuilles, de branches sèches et de fourmis. Je n'ai pas de linge pour me changer, pas le moindre livre, et ne puis parler qu'avec des sous. Voilà un mal-être complet. Je n'écris pas de journal quand je suis heureux. Cette analyse indiscrète nuit au bonheur, mais aujourd'hui, je n'ai rien à perdre. Depuis 9 heures, j'ai froid. » Fin de citation. Souffrance, laideur, saleté. C'est l'autre face de la guerre et de la vie militaire qui affleure dans un discours qui n'est pas du tout idéologique, mais qui tient uniquement au niveau du langage. Dans les pages du journal, ainsi que dans les lettres de Lucie, il n'y a pas de fil logique, ou, si j'ose dire, de cohérence générale. Ce qui domine, c'est le décousu des impressions fragmentaires, des allusions quelquefois cryptiques, des souvenirs du passé associés à la perception du présent. Ainsi, ce qui nous frappe, c'est le mélange des tons, des modes au genre de l'écriture. D'un côté, dirait-on, il y a les ébauches d'un roman d'éducation pour tout ce qui concerne la découverte du caractère anti-héroïque de cette guerre, ce qui est évident dans les descriptions des rares, très rares moments épiques, ou plus encore dans celles des souffrances inhumaines et des humiliations de l'armée. Et dans ce sens, la campagne de Russie peut être considérée comme une expérience constructive, car elle permet à Stendhal de juger, je cite, de sang-froid, de la war et de ce qu'on appelle chez nous des héros. De l'autre, il y a un type d'héroïsme tout à fait différent qui s'oppose à cet anti-héroïsme global, celui du moi, de la résistance de son moi, excusez-moi, qui essaye de résister à tout ce qui l'entoure, le froid, la faim, mais aussi et surtout à la médiocrité, à la grossièreté générale, et qui, par cette résistance opiniâtre et narcissique, parvient à l'emporter sur tout. C'est pourquoi Stendhal souligne les rares moments heureux qui lui arrive, quelques rencontres, quelques conversations, la musique qu'il se fait faire à Smolensk sur un petit piano discord, comme il écrit, par un être qui sent la musique, comme moi la messe. Dans cet océan de barbarie, la résistance principale est représentée par la force de souvenir. L'Italie, Angel, Milan, enfoncés dans la boue, plongé dans des marais fétides, le futur écrivain sent bien que son seul espoir est ailleurs, dans un pays où il pourra recommencer à écrire et à travailler. Le ver à soie, encore un tissu dont on a parlé, recommence à tisser sa prison précieuse. Tel est l'animal nommé écrivain, écrira-t-il dans le souvenir d'égotisme, sa première autobiographie. Pénétrante, enveloppante, l'écriture est semblable à la prison de soi que la laide bête se fabrique. Et ce n'est pas un hasard si à cette époque le mot bélisme revient encore sous sa plume avec l'envie de reprendre les déliers. Stendhal manifeste désormais une indifférence presque complète pour le dénouement de la guerre, le destin de l'armée et de l'empereur. Le 30 septembre, après l'incendie de Moscou donc, on lit dans son journal les quelques lignes qui sont peut-être les plus importantes du voyage en Russie et dont l'intérêt a été maintes fois souligné. Dans la misère la plus déplorable, dans l'avilissement physique et moral, il a l'idée même de l'œuvre à venir. Il faut rappeler qu'il ne deviendra romancier qu'en 1827 avec Armance. Il a la vision bouleversante de sa voix au roman, et ça c'est en Russie, par le souvenir de Cimarosa et des sensations que sa musique fait naître. Ce sont trois lignes qu'il écrit en italien, dans un italien fautif, improbable, et je vous le lis en italien puis je le traduirai. Credo che l'amor mio per Cimarosa viene di ciò che gli fa nascere delle sensazioni pareille a quello che desidero far nascere un giorno, quel misto di allegria e di tenerezza del matrimonio e affatto congeniale con me. Je crois que mon amour pour Cimarosa vient de ce qu'il fait naître des sensations semblables à celles que je désire faire naître un jour. Ce mélange d'allégresse et de tendresse du mariage secret est tout à fait congénial à moi. » Fin de citation. Ce mélange d'allégresse et de tendresse est la caractéristique des bons opéras bouffes, écrit-il à son ami Félix Faure, les seuls qui peuvent représenter la perfection idéale de la comédie. Certes, bien avant la Chartreuse de Parme, cette révélation n'est qu'une intuition, qu'une ébauche de poétique. Et par ailleurs, sur un tout autre plan, dans les pages célèbres sur l'incendie de Moscou, que j'ai fait distribuer, à titre d'exemple, donc, c'est pas dans les pages célèbres sur l'incendie de Moscou, journal du 14 au 15 septembre, il y avait déjà une union des contraires, le tragique et l'ignoble, le haut et le bas, qui donnait forme à l'informe des sensations et des émotions personnelles et qui permettait la mise en récit de cette page de l'histoire. D'un côté, Stendhal note le désordre confus, la perte de la discipline et de la dignité collective, la désagrégation, le pillage général. De l'autre, un grand spectacle, le plus bel incendie du monde, la manifestation extrême de la folie destructive de la noblesse russe. Ce Rostopchine sera un scélérat ou un romain. Il faut voir comme son affaire prendra, écrit-il du présumé incendiaire, en s'en remettant au jugement de l'histoire, apercevant de loin l'immense pyramide de feu formée par les pianos et les canapés de Moscou qui auraient pu donner tant de jouissance aux envahisseurs. Barbarie suprême ou suprême héroïsme? On voit l'armée en fuite, démembrée, décomposée, et on imagine un ennemi caché dans ses flammes ou brûle, ou rôti, un rêve joyeux de conquête du monde, et peut-être le même mythe de Napoléon. Mais on ne sait pas si ces ennemis sont des bêtes sauvages ou des héros splendides. Ce qui domine dans ces pages, c'est la force de la vision, en même temps subjective et symbolique du narrateur, qui, en s'éloignant de la ville, regarde la pyramide immense qui était comme les prières des fidèles et dont la base était sur la terre et la pointe au ciel. Il aurait fallu être seul pour voir ce spectacle grandiose, tandis qu'il se trouve avec des gens mesquins, des gens, comme il écrit, qui auraient rapetissé le Colisée et la mer de Naples. Voilà la triste condition qui a gâté pour moi la campagne de Lucie. Et pourtant, c'est grâce à cette perception purement esthétique de l'événement que le moi salamandre échappe à l'incendie, à cette expérience terrible dont il ne souligne pas du tout, au moins apparemment, la valeur militaire et historique. Il arrive à en maîtriser l'aspect tragique uniquement par l'écriture. C'est pourquoi son récit devient tout simplement, comme il l'écrit à la fin, le détail d'une des journées les plus pénibles et ennuyeusement pénibles de ma vie. « Je ne vous parle pas, madame, écrit-il à la comtesse Beugnon, d'horreur beaucoup plus horrible. Une seule chose m'a tristée, c'est le 20 septembre, je crois, lors de notre rentrée à Moscou. Le spectacle de cette ville charmante, un des plus beaux temples de la volupté, changé en ruines noires et puantes, au milieu desquelles erraient quelques malheureux chiens et quelques femmes cherchant quelque nourriture. » Fin de citation. Feu et glace, chaleur et froid. Ce qui s'ensuit après l'incendie de Moscou, et qu'on ne connaît que trop bien, appartient à l'histoire, et grâce aussi à Stendhal, à la littérature. La débâcle de l'armée de Napoléon et la retraite de Russie reste dans notre imaginaire collectif comme une expérience extrême des limites. Des hommes réduits aux besoins les plus élémentaires, qui luttent pour survivre contre la faim et contre le froid. mais dans les lettres de Stendhal, Angeline Bereiter, à Félix Faure, à la comtesse Daru, l'horreur est exprimée sur un ton léger, souvent ironique ou auto-ironique, comme si le ton tragique lui paraissait excessif. C'est une manière de chercher son salut, somme toute, que de s'obstiner à jouer la comédie de l'homme de lettres, qui est peut-être plus qu'une comédie, en continuant à lire Voltaire, Madame du Deffand, et en continuant à écrire pour conserver le souvenir de ce qu'il voit, et aussi et surtout pour défendre le sublime de son âme, pour ne pas se priver d'un bouclier. Les peines physiques sont diaboliques, écrit-il à la comtesse Daru pendant ce terrible novembre 1812. J'en gèle encore, et vous vous en apercevez sans doute à mon griffonnage. Mais il faudrait bien réagir par un peu de gaieté. C'est encore un appel à la légèreté, à l'allégresse, parce que un peu de gaieté nous sauverait de l'aspect de notre misère. Mieux vaut donc en rire, et continuer à en rire, en revendiquant le bon côté de son caractère, qui est, comme il l'écrit, de prendre une retraite de Russie comme un verre de limonade. Mais de Königsberg, le 28 décembre, après s'être sauvé, il écrit à sa sœur Pauline, qu'il a souvent vu de près, le manque total de force et la mort. Et dans l'histoire de la peinture, c'est le souvenir de la retraite de Russie qui lui permet d'établir la relation de l'esthétique de la terreur au beau moderne à propos du style terrible et fort de Michel-Ange. Lorsque, dans notre malheureuse retraite de Russie, nous étions tout à coup réveillés au milieu de la nuit sombre par une canonnade opiniâtre et qui à chaque moment semblait se rapprocher, toutes les forces de l'homme se rassemblaient autour du cœur. Il était en présence du destin et n'ayant plus d'attention pour tout ce qui était d'un intérêt vulgaire, il s'apprêtait à disputer sa vie à la fatalité. La vue des tableaux de Michel-Ange m'a rappelé cette sensation presque oubliée. Citation. Plus tard, dans sa vie de Napoléon, 1817, Stendhal s'efforcera de trouver des raisons générales et naturelles qui peuvent justifier la guerre contre la Russie, et aussi par le discours objectif de l'historien d'évaluer les erreurs de tactique et stratégie militaire qui en avaient provoqué l'échec, les erreurs d'un chef qui n'était plus le général de l'armée d'Égypte. Napoléon disait « Si je réussis avec la Russie, je suis maître du monde », écrit-il. Ce rêve ne s'était pas réalisé et la Russie devenait le centre d'une opposition invincible, le commencement de la fin de l'Empire. Tout cela est bien connu et se passe de commentaires. Ce qu'il faut retenir est que même dans un ouvrage affichant dans son titre une ambition historique, Stendhal ne dit presque rien de la campagne de Russie. Peut-être parce qu'en 1812, cette aventure avait représenté pour lui une expérience de mort plus qu'une débâcle politique et militaire. La retraite de Moscou avait certes englouti un monde, mais pour le bellisme, elle vaut surtout comme test de l'individu. Et je m'arrête ici pour donner à Antoine le temps de me poser des questions s'il veut. Même si...
pour ce bel exposé sur cette expérience extrême, justement, et sur sa mise en écriture ou sa mise en récit. Est-ce que ce n'est pas justement une illustration de ce que suggéré Blanchot dans ce que je décrivais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que cette expérience de la mort et de l'extrémité ne peut trouver sa place que dans un récit et non pas dans les formes de l'écriture de la vie que sont les lettres ou le journal. Est-ce que ce n'est pas un bon exemple de cette faillite de la littérature dite personnelle, hein, ainsi que Blanchot l'a décrit, hein, à représenter l'événement bouleversant? Alors évidemment, il n'y aura pas de récit chez Stendhal autre de cette retraite de Russie.
Non, mais tu as raison dans le sens où il y a dans les lettres et dans les journaux, dans les pages du journal qu'il consacre à la campagne de Russie, on peut le lire comme un récit. En fait, ce n'est pas l'écriture intermittente, fragmentaire, ouais, qui est l'écriture habituelle du journal de Stendhal. Non, il, quand je disais il donne forme à l'informe, il essaie de donner forme à l'informe, même si il s'agit d'un récit, et je l'ai dit, très réticent, très réticent. Les pages du journal, oui, sont très peu de pages, hein, en fait, pas plus qu'une 10-15 pages par rapport à tout ce qu'il consacre à d'autres expériences. Et les lettres sont assez peu nombreuses, mais il y a une tendance à la mise en récit. Oui.
Mais tu as dit à un moment que ces pages étaient particulièrement décousues et manquaient de fil logique, j'ai entendu
de fil logique, oui, dans le sens où il n'y a pas le récit de l'expédition de Napoléon. Hein? Donc,
oui,
il n'y a même pas, comment dire, l'histoire de ses sensations personnelles en tant qu'individu devant la débâcle, mm-hmm, hein, qu'il voit évidemment se vérifier à partir de l'incendie de Smolensk et puis de Moscou, etc., et de la retraite. Donc, il n'y a pas de fil logique, mais comment dire, à chaque page. Oui. À chaque demi-page, on a l'impression de se trouver devant une sorte de texte qui aspire à être un texte complet, qui aspire. Oui. Il y a une sorte d'aspiration au récit. Je ne sais pas comment l'expliquer.
Il n'y a pas de récit continu, suivi,
non,
mais ce que tu dis,
non,
c'est,
non,
que ce
non,
sont,
non,
c'est que la prégnance du récit est quand même forte,
ouais,
dans.
Ouais.
Mais là aussi, je pensais au passage par lequel je terminais tout, eh, à,
oui,
l'heure, hein, que je vous relis. Hein, c'est la sensation présente absorbait tout absolument. Hein, donc aucun souvenir. Hein, mais c'est pour la première fois que je trouver cette sensation si renouvelée depuis, me trouver entre les colonnes d'une armée de Napoléon, la sensation présente absorbait tout, absolument, comme le souvenir de la première soirée où Julia m'a traité en amant. C'est la même, la peur d'un côté, l'extrême peur, et de l'autre côté, l'extrême bonheur,
ah ouais,
ne laisse pas de souvenir.
Ouais.
Là, on est dans un
journal. Il n'y a que le malheur. Il y a le malheur, mais c'est un moment très important, c'est un moment crucial, mm-hmm, parce que c'est après la campagne de Russie que Stendhal devient écrivain.
Oui.
C'est-à-dire qu'il trouve, mm-hmm, par ce que j'ai appelé ce texte extrême, mm-hmm, hein, de l'individu, il a trouvé aussi sa voie au roman, hein, les quelques lignes sur le mariage secret de Cimarosa sont la plus belle définition de ce qui sera, par exemple, la Chartreuse de Parme, pour ne pas parler d'autres choses. Mais ce qui est important, c'est le sentiment qu'il a d'être, d'avoir connu la mort. La mort est une sorte de résurrection. Par exemple, dans la partie que je n'ai pas lue, il y a un texte qui est très beau, à mon avis, sur ses sensations, sur la Russie, à laquelle il recommence à penser quelques années plus tard, quand il écrit « Non sum qualis eram », je ne suis pas ce que j'étais. Je suis malheureusement loin d'être l'homme de 1811. Je suis dans le calme le plus parfait. Et à mon retour de Moscou, je n'ai plus retrouvé la passion qui animait ma vie. Je pensais au contraire, etc., etc. Là, ce sont des réflexions que j'avais consacrées à la notion de froideur et de mélancolie qui suit cette expérience de limite, qui est vraiment une expérience de limite, hein, parce que Stendhal a risqué de mourir de faim, de mourir de froid, il a vu les pires choses pendant la retraite de Russie, tout le monde sait de quoi il s'agit, mais il a une sorte de résurrection, mais cette résurrection se fait par un état mélancolique. Par exemple, c'est après l'expérience de la retraite, et je crois que c'est la seule fois, peut-être il y en a un autre, que paraît le mot « spleen » sous la plume de Stendhal. Donc, la Russie, ce n'est pas seulement une expérience des limites, mais la Russie, c'est aussi la mélancolie. La mélancolie, mais qui devient au fur et à mesure une mélancolie productrice, d'où naîtra son écriture, son expérience. Là, c'est encore tôt, hein. En 1812, non, c'est encore tôt, hein, pour lui. C'est-à-dire il se consacre à des plagiats, à des reprises, mais il publiera l'histoire de la peinture en Italie seulement en 1817. Donc, un peu de temps, quelques années après le retour de Moscou. Donc c'est bizarre. Non, mais ce qui est bizarre, c'est que ce Stendhal historien, ou qui tente d'être historien, n'a jamais voulu parler de ces mois qu'il a passés en Russie. Et pourtant, il a tout vu. Hein. Il a tout vu. Alors que, comme je l'ai dit au début, il n'a pas assisté à la bataille de Waterloo. Il n'y est pas allé, donc il ne figurait pas. Mais là, il y a la mise en récit, alors que, oui, pour la Russie, je dis qu'il y a une sorte de tendance au récit. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais si tu lis, Antoine, une lettre de Stendhal concernant la campagne de Russie, tu as l'impression que c'est un récit. Ce n'est pas une lettre personnelle ou fragmentaire comme dans d'autres... Dans d'autres cas.
Oui, mais tu parlais d'ironie sur.
Si. Eh bien, mais ça fait partie du récit aussi. Hein. Parce que est-ce qu'on peut croire vraiment à la sincérité de cette ironie, auto-ironie, hein, quand on est vraiment. Il était en train d'avoir vraiment de vivre une expérience extrême, une expérience des limites. Il souffrait la faim, affreusement, mais il en parle toujours comme ça. Je suis quelqu'un qui est capable de prendre une retraite de Russie comme un verre de limonade. Hein? Et cette ironie affleure aussi dans les pages que je vous ai distribuées, qui sont les plus célèbres, celles sur l'incendie de Moscou. Mais il y a toujours cette tentative qui est, moi je la vois comme une tentative de sauvetage. Il essaye vraiment de chercher son salut au moment où il a risqué de tout perdre. Mm-hmm. Ce qu'il n'a pas pu éviter, je le dis et le répète, et pour qui en a envie, qu'il lise les pages du journal postérieur à l'année 1812, si elle est là, c'est qu'à chaque fois qu'il pense à la Russie, il redevient mélancolique et il parle de son corps, justement. Il y a par exemple ses douleurs au ventre, il parle dans une page du journal qui est assez étonnante, à un moment donné, il a une attaque de diarrhée qui le fait penser, écrit-il, à la fatale Bérésina. Donc, c'est que son corps est devenu souffrant lors de cette campagne, et à chaque fois qu'il souffre, il ne fait que penser à cette expérience atroce. Mais c'est toujours sur un ton d'ironie, justement, sur un ton assez léger. C'est comme s'il y avait, comme s'il essayait de transformer la retraite de Russie en opéra bouffe, ce qui n'est pas possible, même pas pour lui. C'est
Bien. Et nous allons te remercier encore pour ce bel exposé et nous séparer là.
C'est moi qui vous remercie.